on a un petit moment de débat pour réagir, en sachant bien sûr que le colloque se poursuit hein, et que les moments de débat vont être multiples.
Je travaille dans un centre social municipal depuis un an, donc je découvre un peu aussi les fonctionnements. Municipal, c'est quand même assez particulier et à l'écoute de tout ce que je reçois depuis ce matin. J'ai une vraie interrogation. Alors sur une commune de 5000 habitants, donc la question du quartier, elle est un peu plutôt à l'échelle de la ville. Est-ce que c'est utopique ou pas de vouloir se lancer dans le développement du pouvoir d'agir des habitants de la ville, quand on est une structure municipale? Donc il y avait la question des financeurs évoquée tout à l'heure, mais là la question du politique elle est très prégnante, avec des élus qui des fois sont pas en totale maîtrise déjà eux-mêmes leur vision politique. Comment les faire accepter de lâcher prise sur une partie des finances qu'ils peuvent octroyer au centre social pour qu'il y ait du soutien à des projets d'habitants qui vont des fois aller dans un sens inverse, opposé de leur propre projet politique. Je ne sais pas si voilà, vous avez tout le déroulé de... Voilà, si c'était suffisamment explicite, mais du coup, je suis convaincue par cette posture, par cette idéologie, par cette envie de pouvoir vraiment permettre aux gens de les accompagner dans leurs projets. Mais je sens que vraiment, là, la question de la contrainte des conditions de travail, elle est prégnante et qu'en plus, elle est limitée dans le temps parce que les élus avec lesquels éventuellement je pourrais travailler cette question-là, je n'ai pas la garantie que 5 ans après, ils sont encore là. Donc, est-ce qu'il y a des expérimentations dans des centres sociaux municipaux où ça fonctionne et où il y a vraiment des choses qui arrivent à perdurer? Voilà, la question est lancée.
Je m'appelle Nora, je suis habitante du quartier de la Rabière et je voulais dire que tout ce que vous avez dit, ça sonne sur tout ce qui se passe dans mon quartier, tout ce qu'on peut faire ou même en tant qu'acteur ou adhérente. Donc l'étape de quartier, j'ai déjà participé et on a des conseils de quartier aussi. Et quand ça vient d'en haut, quoi, ça n'a aucune utilité. Par contre, quand c'est des habitants qui agissent et qui vivent l'instant présent, qui vivent dans les quartiers, qui savent les préoccupations, les problématiques, et là, ça change, c'est autre chose et ça avance. Le pouvoir d'agir, c'est d'abord parce que ce qu'on a en face de nous, un centre social, c'est une structure, mais il y a des personnes qui travaillent et ils filtrent. Ils sont là en cohésion avec les habitants. Donc si on ne travaille pas en partenariat, en cohésion, même en articulation, quoi, on est là, on vit ensemble. Quoi. C'est vivre ensemble, c'est une chose, mais voilà, faire ensemble, c'est autre chose. Donc je voulais vous dire ça, c'est tout.
Oui, alors je voulais vous dire que je suis du monde associatif. On participe donc au centre social pluriel à des animations. On a vraiment accompagné, on est écouté, on participe vraiment en tant qu'association. Il y a vraiment cette volonté d'accueillir beaucoup d'associations et c'est une grande on mutualise, on expérimente ensemble. Alors la question que je voulais poser, c'est les codes de parole, parce que je trouve que quand on discute quand il y a des comme ça des tables de quartier ou des réunions ou nous dans les universités populaires Quart-Monde, eh bien la question qui se pose c'est que chacun a ses codes. Alors quand on entend les travailleurs sociaux ou même vous en tant que salarié des centres sociaux, nous on n'est pas forcément les habitants ou d'associations, on n'est pas forcément tellement dans ce milieu-là. Enfin il y a des questions de codes qui se posent vraiment hein, et donc faut vraiment, enfin il faut travailler là-dessus. Il y a aussi la question des savoirs, chacun étant dans un milieu, dans son profession, etc., ou dans son association, on a vraiment chacun sont partis, sont précarés. Et finalement, c'est la question des croisements des savoirs. Parce que c'est vrai qu'on devait aborder ça cet après-midi. Comment des gens de milieux, de savoirs différents peuvent arriver à s'entendre et à se parler et malgré les codes qui sont différents. Alors, est-ce que quelqu'un a expérimenté ça ?
Jérémy, tu
as une question ? Je passerai la parole un peu aussi à Alain sur la question des centres sociaux municipaux. Je pense qu'il y a des particularités des centres sociaux municipaux, mais je pense que la question de ne pas se lancer dans quelque chose parce qu'on se dit qu'on risque d'avoir des réprimandes de la part de nos financeurs, ça se pose aussi dans les centres sociaux associatifs. Et les réprimandes des financeurs qui menacent de couper les subventions, ça se pose aussi dans les centres sociaux associatifs. Donc je pense que c'est une question qui est commune. Après, effectivement, le modèle de centre social municipal est assez récent en fait, dans l'histoire du mouvement. Et du coup, c'est pour ça que je voulais aussi peut-être te laisser la parole là-dessus. Comment est-ce que la FEDE envisage l'articulation en fait, entre centres sociaux municipaux et centres sociaux associatifs dans les formations ? Est-ce que tout le monde vient ensemble ? Est-ce que vous avez repéré des choses un peu particulières ? Je pense, enfin, pour rebondir un peu sur la question qui était posée. Sur les codes de parole, une des choses qu'on avait fait, c'est qu'on avait assumé de créer des espaces pour des... Parce que la question des codes de parole, c'est aussi la question du pouvoir qui est lié au fait que certains sont habitués à prendre la parole et d'autres moins. Et donc, par exemple, une des choses qui est inscrite dans le kit des tables de quartier, donc qui était au lancement des tables de quartier, c'était de dire que, à l'image des tables québécoises, quand les pouvoirs publics viennent, c'est parce qu'ils sont invités à venir, ils viennent pour des raisons particulières, pour répondre à certaines questions, mais c'est pas eux qui président les séances des tables de quartier, quoi, parce qu'on a remarqué malheureusement que sur certains moments, la prise de parole, même des fois involontaire, c'est qu'on n'est pas que en période de campagne électorale, mais des fois, ceux qui sont habitués à prendre la parole, ils la prennent, quoi. Et ça peut d'ailleurs être aussi, je parle d'élus locaux, mais ça peut être aussi des présidents de centres sociaux qui se retrouvent en fait à introduire la rencontre, et puis ensuite donner leur avis, puis ensuite redonner leur avis, puis ensuite conclure la rencontre, et en fait ils auront parlé 50, 60, 70% du temps. Donc du coup nous on a instauré deux choses, c'est que sur certaines y avait un exemple sur une table où les gens critiquaient beaucoup les jeunes du quartier, et les jeunes n'étaient jamais là. Et donc du coup on se disait qu'il y a quand même un enjeu à soulever de comment est-ce qu'on confronte au moins des points de vue, quoi, parce que pour éviter le conflit violent, c'est aussi une des solutions, c'est de réussir à confronter des points de vue à un moment. Et donc du coup on a travaillé avec les animateurs du centre social pour monter une table de quartier jeune entre guillemets, pour qu'ils puissent entre eux décider un peu quels étaient les enjeux importants et se sentir forts parce qu'ils seraient représentants de la table de quartier jeune à venir à la table de quartier classique. Et du coup il y a eu des échanges ultra intéressants parce qu'on a eu ce temps de préparation en amont. Et je pense que ça peut être intéressant de créer des espaces qu'on appelle des espaces de non-mixité, donc pour le coup réservés aux jeunes, ou en tout cas des espaces réservés à des gens qui sont a priori avec moins de pouvoir, ont moins d'habitude à prendre la parole, pour préparer en tout cas, et qu'ensuite ils aillent dans le grand bain, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on refait ça, le passage de la table de quartier à par exemple le conseil citoyen ou des espaces municipaux, c'est pareil, on prépare les gens en fait. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des espaces avec des techniciens, avec des élus qui parlent, qui leur disent des trucs qu'ils ne comprennent pas. Et du coup, on prépare aussi en amont et on débriefe après sur est-ce que tu as réussi à prendre la parole, quel mandat on te donne, qu'est-ce que tu as sur le cœur et qu'est-ce que tu as envie de dire. Donc je pense que sur la question des codes de parole, il y a deux enjeux. C'est qu'il y a effectivement ce truc-là de la non-mixité à un moment donné pour pouvoir réussir à capter des paroles qui sont inaudibles parce que masqué dans la foule sinon, et la question de la préparation collective à des moments de discussion.
Oui, merci Jérémy, mais enfin, ce que tu dis au préalable, c'est un peu nous la position qu'on a à la Fédé nationale, c'est-à-dire que la question du rapport aux financeurs par rapport à la gestion ou à l'accompagnement de projets qui pourraient être revendicatifs, basés sur du conflit, enfin, etc., elle se pose quel que soit le statut du porteur, qu'il soit associatif, CAF ou centre social municipal. Après, il y a quand même un travail un petit peu qui se fait. Après, on parlait tout à l'heure de la question du portage politique. Nous, aujourd'hui, on essaye de différencier ce qu'on va plutôt appeler le portage politique du pilotage du projet. Et il est vrai que dans un centre social associatif, portage politique et pilotage du projet avec les professionnels, c'est souvent fait par les mêmes. Dans le centre social municipal, il y a un vrai décalage là. Le portage politique va être assuré par la municipalité, mais il y a un énorme enjeu à ce que le pilotage du projet et que l'influence sur le portage politique puisse se faire par un groupe d'habitants. C'est complexe, hein, on rame pour bosser sur ces questions-là, mais la clarification, je ne sais pas si on le reprendra en parlant d'engagement, etc., mais la clarification aussi de ces notions-là de portage politique et de pilotage nous aide en tout cas à y voir un peu plus clair. Et puis, quand même, est-ce que c'est utopique de vouloir se lancer dans le DPA quand on est un centre social municipal ou pas ? Enfin, moi, juste ce que je peux observer, ce que j'ai vu dans un certain nombre de territoires, et du coup, c'est la différence entre ce que tu disais, Jérémy, c'est qu'à un moment, un centre social, même municipal, mais c'est vrai aussi pour de l'associatif, qui est en capacité d'animer du conflit, c'est-à-dire de créer les conditions d'expression différentes, de créer les conditions pour que le rapport de force, l'échange, la confrontation puisse avoir lieu, mais qu'ils garantissent la forme pour que la forme soit non violente, parce que souvent on confond conflit et violence, ou en tout cas on a peur que le conflit génère de la violence, alors qu'en fait il y a des formes qui permettent de contenir. Enfin, il y a des façons de faire qui permettent de contenir la forme violente, mais qui permet en contrepartie une réelle expression des désaccords, etc. Et là, il me semble qu'il y a des chemins. Et moi, j'ai vu des centres sociaux, enfin, je vois régulièrement des centres sociaux municipaux ou des centres sociaux associatifs dans cette difficulté-là, qui, en fait, clarifient cette dimension-là. C'est-à-dire, notre boulot, c'est de créer les conditions pour que le conflit puisse vraiment s'exprimer. Mais quand il s'exprime de façon non violente, on voit un paquet d'élus, un paquet de présidents d'associations, un paquet de collectivités, etc., qui à un moment se disent c'est quand même intéressant de pouvoir aller beaucoup plus loin que d'habitude dans le conflit, de pouvoir comprendre l'autre et pourquoi pas de temps en temps de pouvoir plier, accepter le rapport de force parce qu'il n'est pas, il est pas basé sur une forme violente. Et il y a des élus et il y a des responsables associatifs, il y a des collectivités, il y a des gens qui disent aussi au bout d'un moment mais cette façon-là d'être dans le conflit, j'en veux et j'en reveux. Et souvent, c'est des micro-réussites de ce type-là, c'est des petites choses qui, petit à petit, peuvent permettre aussi, à un moment, de gagner du mandat pour se dire, cette façon-là de bosser et de se positionner dans l'accompagnement de collectifs et de confrontation entre des habitants qui ont des choses à défendre et des élus qui n'ont pas forcément la même vision, ça peut avancer. Il y a vraiment... Voilà, mais c'est plutôt l'enchaînement de quelques micro-réussites sur lesquelles il faut capitaliser pour aller chercher un mandat plus conscientisé du côté d'un conseil d'administration pour une asso, du côté d'un élu, enfin d'élus municipaux quand il s'agit de municipalités. C'est plus complexe que ça, mais on voit souvent ces processus-là quand même qui permettent de faire avancer le schmilblick.
Merci, merci beaucoup Alain, merci Jérémy. Donc sans plus attendre, on va passer la parole à la compagnie Inédit Théâtre.